c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, bonjour nos adorés, je suis Julie Sigel et aujourd'hui je reçois Vincent Schuller. Bonjour Vincent.
Salut.
Bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler de l'hypnose, enfin en gros hein, je donne le terme général et tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, en quoi ça peut être utile, etc. Et toi-même, tu es donc hypnothérapeute et thérapeute psychocorporel, ou je dis une bêtise ?
Non, c'est exactement ça.
C'est bien ça. Donc tu exerces à Strasbourg. Mm-hmm. On pourra retrouver tes coordonnées sous le podcast de l'émission. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de ça. Je suis super contente parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup les ados. Au vu des questions qu'on a eues, je me dis qu'effectivement, te faire venir, c'était une super idée. Donc est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous dire un peu quel ado tu étais, Vincent ?
Alors, quel ado j'étais ? J'étais pas l'ado le plus studieux qu'on puisse imaginer à l'école. Quand j'étais ado, je pouvais avoir des grandes périodes de repli un peu à la maison, pas trop discuter avec papa, maman. La question des amis était quelque chose de super important. J'ai deux amis qui sont très importants pour moi, qui datent de l'époque de ma seconde, donc de mon entrée au lycée. J'étais aussi un ado qui avait découvert Jimi Hendrix et du coup je voulais devenir une star du rock and roll et jouer de la guitare comme Jimi Hendrix.
Et donc tu pratiquais, t'avais un groupe ou...
Ouais, je pratiquais la guitare, ouais, j'ai eu un groupe.
On veut connaître le nom du groupe parce que c'est toujours intéressant. Tu te souviens ?
Alors le groupe qui me vient, mais c'est un peu plus tard, c'était fin de l'adolescence, ça s'appelait Eugène ou la fourmi.
Ah, j'adore.
Voilà.
Ah bah chouette. Ça dit beaucoup, je trouve, les noms de groupe, franchement.
Mm-hmm.
Uh-huh. Ok, donc toi t'es hypnothérapeute, enfin thérapeute psychocorporel.
C'est ça.
Tu vas nous expliquer un peu ces termes. Et je voulais savoir comment t'en es arrivé à faire ça. T'as toujours su que tu voulais faire ça, t'as toujours su que tu voulais bosser avec les autres, aider, enfin voilà, être un peu empathique et autres, j'imagine.
Alors, si je reprends un peu les choses chronologiquement, non, j'ai pas toujours su que j'allais devenir thérapeute, ni hypnothérapeute. Au départ, quand j'ai 17 ans, ma maman, peut-être un peu inquiète du fait de voir son fils, qui peut de temps en temps avoir des périodes de repli, comme ça, qui sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, m'inscrit pour que je passe mon BAFA, le brevet, je sais même plus ce que ça veut dire, enfin, pour être animateur. C'est un peu une révélation pour moi, je fais mon BAFA, j'adore ça et j'ai une première rencontre avec quelqu'un qui a compté pour moi, qui me dit ok cool Vincent, je te fais confiance et je commence à faire de l'animation socioculturelle et c'est un vrai kiff, ça me plaît beaucoup et petit à petit en faisant pas mal d'animation en tant qu'animateur, je rencontre un éducateur spécialisé. Et puis je me dis, oh, ça c'est super, ça a l'air top son métier d'éducateur spécialisé. Finalement, c'est tout ce que j'aime dans l'animation, sans le côté, il faut préparer des jeux, tout ça. Ce qui n'était pas forcément le truc que je préférais dans l'animation. Moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était le rapport humain, être notamment avec des enfants, avec les jeunes que j'encadrais à l'époque. Et du coup, je me lance là-dedans, éducateur spécialisé. Et je tente une première fois le concours juste à la fin de mon bac. Ça marche pas trop. Je fais.
T'as fait quoi
année.
Comme bac ?
J'ai fait un bac scientifique.
D'accord.
Et je fais une année à la fac de psycho, qui est plus à Strasbourg, qui est plus puisque donc j'ai pas réussi le concours de l'école éducateur.
Occupationnel quoi.
Qui est plus une année occupationnelle, ouais. de franche. De belles soirées festives étudiantes avec des amis. Et finalement, je retente le concours, je l'ai, et donc je deviens éducateur. Donc mon premier métier, vrai métier après l'animation socioculturelle, c'est éducateur spécialisé, où j'ai travaillé dans la protection de l'enfance. J'ai travaillé dans un foyer, on dit un foyer d'action éducative, qui accueillait des adolescentes qui, pour diverses raisons, ne pouvaient plus rester dans leur famille, donc qui étaient placés par le juge des enfants. Voilà, et donc c'est ma première expérience professionnelle en internat, donc avec ces jeunes adolescentes de 14 à 21 ans, en fait. Et je vais faire ça pendant une petite dizaine d'années, mmh. avant de, toujours dans le social, travailler avec un public migrant, donc pour une autre association, un public qui a fui son pays, qui vient en France pour faire une demande d'asile. Donc j'ai travaillé avec des demandeurs d'asile et des réfugiés, en tant que chef de service et directeur adjoint de la structure. Jusqu'à il y a quelques petites années où...
Qu'est-ce que ça veut dire, il y a quelques petites années?
Ça veut dire, c'était il y a 3 ans.
Ouais, ah oui, 3 ans. Effectivement, c'est récent.
Voilà. Mmh. Où j'ai plus trop envie de faire ça, ça marche plus trop avec l'association qui m'emploie. Et il y a un virage professionnel, c'est pas complètement une reconversion, parce que finalement je reste un peu dans la thématique de la relation d'aide et la relation humaine. Mais ça coïncide avec une période où moi-même en thérapie, j'ai rencontré l'hypnose. Et je trouve ça super chouette, super fun, très sympa aussi comme outil d'évolution et de transformation. Et puis je rencontre aussi ma compagne actuelle à ce moment-là, qui est elle-même thérapeute. Et puis petit à petit, l'idée germe de me lancer là-dedans. Donc je me forme plein.
Le sentiment qu'il te fallait gagner en légitimité, ou que, parce que tu dis je me forme beaucoup, ça veut dire quoi, je me forme beaucoup? Tu as fait plusieurs formations, plusieurs courants, enfin je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais...
Bah, ça veut dire que c'est un peu le grand saut comme ça, quand on a été salarié pour une boîte et de se dire qu'on va s'installer en tant que thérapeute en libéral, mm-hmm. donc d'être son propre chef comme ça, donc effectivement un besoin de se former pour acquérir cette légitimité, pour acquérir des outils. L'hypnose, c'est une technique, hein, donc c'est vraiment des choses qui s'apprennent d'un point de vue technique. Et puis c'est vraiment aussi toute une réflexion très approfondie sur qu'est-ce que c'est qu'aider l'autre, comment est-ce qu'on l'accompagne, comment est-ce qu'on crée une relation thérapeutique, qu'est-ce que c'est qu'écouter quelqu'un, comment est-ce qu'on peut mettre en place aussi des scénographies qui permettent à un moment à une personne de trouver des réponses qui soient les bonnes pour elle. Voilà, donc ça c'est beaucoup effectivement de formation en présentiel, de formation aussi avec des outils internet. Aujourd'hui YouTube est une vraie mine d'or, alors des fois il y a des formations qui sont payantes et qui permettent d'apprendre plein de trucs. Il y a des bouquins, il y a plein de choses. Et puis ça me passionne. Donc, je consacre beaucoup de temps à ça.
Oui, puis je pense que c'est une formation au long cours. Quoi,
c'est ça. Complètement une formation au long cours. J'étais encore en formation il y a une semaine et demie.
Voilà. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait un petit peu en quoi les outils que toi tu utilises, donc, notamment l'hypnose, peut apporter à une personne qui ressent un certain mal-être, bien sûr sans négliger l'aspect parfois nécessité de se rendre chez un psychiatre ou un psychologue, etc. Sachant que tu as dit que tu n'étais pas psychologue, en quoi est-ce que peut-être ça peut remplacer, compenser, etc. Comment tu dirais ça, toi? Pourquoi les gens viennent te voir, en gros? Pourquoi ils décident plutôt de passer par une thérapie psychocorporelle que par une psychothérapie classique?
Alors pourquoi est-ce que les gens viennent me voir? Faudrait leur demander. En tout cas, moi, ce qu'ils me disent, c'est souvent quand ils viennent me voir, c'est un peu, ils ont déjà tout essayé, quoi. Souvent, ils ont déjà vu un psychiatre, souvent, ils ont déjà vu un psychologue, souvent, ils ont déjà fait une analyse, donc une psychanalyse.
En gros, ils ont été déçus.
Ils n'ont pas forcément été déçus, ils ont besoin que ça avance à un autre niveau, que ça avance peut-être des fois plus vite, que les choses se mettent en place. Ils se rendent bien compte aussi que... il y a quelque chose qui se passe en eux au-delà de l'aspect uniquement rationnel, conscient. J'aime bien donner comme exemple que quelqu'un qui aurait la phobie des guêpes, moi, ma grand-mère, elle disait tout le temps « les petites bêtes mangent pas les grosses ». Et quelqu'un qui aurait la phobie des guêpes ou la phobie des araignées, par exemple, on peut peut-être pendant toute sa vie lui dire « voyons, tu sais bien, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Pour autant, il y a peu de chances que d'un seul coup, ils se disent « Ah oui, les petites bêtes ne mangent pas les grosses, donc j'arrête d'avoir peur. » Donc c'est bien quelque chose qui se situe à un autre niveau que certains pourraient appeler inconscient. Et les personnes qui viennent me voir, c'est un peu une prise de conscience que Effectivement, ce qui se passe à cet autre niveau, eh ben, il y a peut-être besoin d'aller voir, d'aller travailler ça. Et alors, la psychanalyse peut proposer ça, mais c'est vrai que c'est plutôt un chemin sur le long terme. Moi, je vais proposer une approche un peu plus directe pour aller discuter avec ces parties-là, que ce soit en allant écouter le corps ou que ce soit en faisant des séances d'hypnose.
D'accord. Est-ce que tu t'occupes d'ados, donc, aussi ?
Ouais, j'accueille aussi des ados, ouais.
Et quelles sont les problématiques les plus courantes pour lesquelles les ados viennent te voir ? Parce que là, on peut dire qu'il n'y a pas un lourd passif de consultation de psy, d'analyse, etc. Pourquoi est-ce que les ados auraient envie, ou leurs parents, j'en sais rien, de se diriger vers toi ?
Alors, il y a certains ados qui ont déjà un sacré parcours hein, de rencontres de plein de personnes avec de multiples diagnostics qui, des fois, ne leur parlent pas du tout. J'ai un adolescent comme ça qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps au cabinet et qui venait me voir pour des problèmes de bégaiement. Et on discute un peu avec sa maman et puis au bout d'un moment, comme je le fais systématiquement, je propose avec l'accord de l'adolescent que la maman aille attendre dans la salle d'attente. Et je lui dis, bah alors pourquoi est-ce que tu viens me voir quoi? Il me dit, bah, je viens te voir pour les problèmes de bégaiement. Et je lui dis, mais d'après toi, ça vient d'où les problèmes de bégaiement ? Et puis, il me ressort complètement tout un discours, complètement appris, en fait, de tout ah oui, ce qu'on lui a dit.
À force d'entendre ce que disaient ses parents voilà, et les autres
de tous les médecins. Ouais. Donc, il me dit, ah ben, on m'a dit ça, on m'a dit que ça devait pouvoir venir de là, ou de là, ou de là, ou de là. Et puis, y a tel rendez-vous, etc. Et c'est vraiment un discours complètement appris, quoi. Et de pouvoir, à ce moment-là, redonner une parole et lui dire, ouais, mais et toi ? Qu'est-ce que t'en penses de ça, quoi ? Et puis, peut-être, tu peux prendre juste quelques secondes pour... aller regarder à l'intérieur de toi. Est-ce que tout ce qui est dit là, qui t'a été appris, tout ce qui t'a été dit et redit, ça te paraît pertinent ? Ça te paraît être ça ? Et puis il prend comme ça quelques secondes, puis il attend, et puis il me dit, bah, en fait non, moi ça ne me parle pas du tout. Quoi. Et du coup, voilà, c'est juste pour revenir sur, effectivement, des fois il y a déjà un lourd passif
d'étiquetage, de
consultation. Et finalement, ce qui moi me paraît vraiment important, c'est on accueille un ado, c'est pouvoir déjà dans un premier temps vraiment l'écouter lui, lui dire qu'il vient là pour lui. Effectivement, on a des ados aussi qui vont venir parce que papa et maman pensent que c'est hyper important de venir consulter. Moi, mon cadre d'intervention, par exemple, quand je reçois un ado, c'est que vraiment c'est l'ado que je vais recevoir. Quoi. Alors, il peut arriver qu'ils viennent parce que maman pense que c'est important qu'ils viennent. Il n'empêche que, par exemple, à la fin de la première séance, ça va vraiment être lui qui va dire « je souhaite revenir ou je souhaite pas revenir ». Et ça, c'est un cadre, par exemple, que je pose dès la prise de rendez-vous. Souvent, c'est les parents que j'ai au téléphone. Mais c'est vraiment l'ado, c'est un espace qui est pour lui. C'est lui qui le fait. C'est lui qui est acteur et qui va mettre ça en place. Du coup, j'ai complètement oublié ta question de départ.
Non, ma question, c'était dans quel type de problématique, dans quel cadre tu reçois des ados ?
Dans quel cadre de problématique ? Mm-hmm. Donc là, je donnais un exemple. Ça peut être un problème de bégaiement.
Oui.
Après, globalement, je dirais que la majorité des ados qui viennent me voir, c'est quand même des ados qui vont pas très bien, quoi. Qui vont pas très bien parce que il y a un passé qui peut être douloureux, avec des fois des histoires familiales difficiles, avec des fois des violences subies, parfois même à l'intérieur de la famille. C'est souvent aussi des ados pour lesquels ça se passe pas très bien à l'école, qui peuvent être un peu victimes de ce qu'on appelle harcèlement scolaire, et qui du coup peuvent développer un peu des peurs de l'autre, des peurs de sortir de chez eux, des peurs d'aller à l'école. Le contexte aussi, confinement, est vraiment pas aidant, je crois, aujourd'hui pour le public, pour les ados qui se retrouvent à l'école aussi avec des fois des profs qui sont ben bien évidemment eux-mêmes stressés de tout ce qui se passe et qui peuvent être un peu victimes comme ça de tout ça. Donc c'est quand même beaucoup des ados qui vont pas très bien. Voilà.
Oui, j'imagine bien. Mais est-ce que tu peux préciser un peu les problématiques qu'ils ressentent ? Donc tu nous as parlé du harcèlement, tu nous as parlé de difficultés scolaires, etc. On entend beaucoup d'ados qui parlent de problèmes de sommeil. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles l'hypnose peut agir ou en tout cas ta technique ou le type de thérapie que tu proposes ?
Alors oui, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Quand on travaille en hypnose, on peut soit travailler sur le symptôme, soit travailler vraiment sur la cause. On peut faire une séance d'hypnose pour vraiment permettre à la personne de retrouver pendant quelques jours un sommeil, un sommeil apaisé. On peut travailler aussi sur un apprentissage de l'auto-hypnose, donc une hypnose que la personne va savoir mettre en place de manière autonome et indépendante.
D'accord.
C'est tout un travail qui va permettre à la personne de se préparer à aller dormir. Et donc, du coup, à peut-être passer une nuit belle, sereine, reposante, avec sans les réveils au milieu de la nuit, et ces moments où on a du mal à se rendormir. Et là, on va travailler sur le symptôme. C'est des choses que je peux faire, moi, parce que bah, finalement, quelqu'un qui arrive et qui est hyper, hyper fatigué, peut-être que la première chose à faire, c'est de lui donner la possibilité de retrouver quelques nuits de sommeil.
Avant de travailler sur la cause, tu veux dire.
Avant de travailler sur la cause, ouais. Parce qu'effectivement, en hypnose, après, on va pouvoir travailler sur la cause. Ben, voilà, si je dors très, très, très mal parce que j'ai la machine à penser qui se met en route quand je vais me coucher parce que je me sens très en insécurité à l'école, parce que j'ai subi du harcèlement scolaire, parce que j'ai peur. Si je me sens très en insécurité le soir quand je vais me coucher, parce que peut-être que ça me renvoie à des épisodes de ma vie où j'ai subi des violences. Et puis peut-être que tout ça, le fait d'aller me coucher me renvoie à ces violences, ben ça peut être vraiment très intéressant, très important d'aller travailler sur ces épisodes de vie. Le but étant de retrouver un pouvoir d'agir, de retrouver les ressources pour pouvoir surpasser les difficultés. Bien évidemment, on ne change pas les événements comme ils se sont passés, mais on peut changer la perception qu'on en a. Mmh. Et si un événement a été très dur, et ben peut-être que face à cet événement très dur, quand je repense à cet événement, je me dis ben c'est un peu comme si ma vie elle était complètement foutue, quoi, comme si j'avais pas le droit de vivre, comme si je me sentais vraiment un peu comme de la merde en fait.
Un peu, ouais, empêcher.
Et là, ça va vraiment empêcher beaucoup, beaucoup de choses. Je vais être très, très mal avec ça. Effectivement, la machine à penser, elle peut se mettre en place très, 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 très vite, là. Et ça peut être très, très dur. C'est un peu... on peut parler presque de dépression à ce moment-là. Je travaille sur mon histoire, peut-être que cette histoire qui a été extrêmement difficile, à un moment, je peux me dire « Ah, mais en fait... je suis une victime. » Et puis si je suis une victime, c'est déjà plus tout à fait pareil dans mon quotidien. Puis peut-être qu'à un moment, toujours sur la même histoire, on n'a pas changé le cours de l'histoire, mais je vais pouvoir me dire « Ah, mais en fait, je suis un survivant de cette histoire. » Puis déjà, on imagine bien que si je suis un survivant, c'est plus tout à fait le même rapport dans mon quotidien que si j'ai pas le droit de vivre, que je suis une merde. Puis peut-être même à un moment, on va se dire « Waouh, je suis un héros d'avoir survécu à tout ça. » C'est toujours la même histoire, mais c'est la manière dont on se l'a raconté. L'hypnose peut permettre de travailler là-dessus.
Ah oui.
Voilà, si je suis un héros, ben, on imagine bien que pareil, c'est plus tout à fait le même rapport au monde et dans ma quotidienneté que si je me sens comme quelque chose qui n'a pas le droit d'exister, quoi.
Très intéressant. Voilà. Wow.
Merci.
Justement, si on envisage comme ça un protocole, enfin je sais pas si on appelle ça un protocole, je sais pas comment t'appelles ça. C'est combien de séances? Parce que les ados, ils aiment bien savoir ça. Ils aiment bien ne pas se sentir pris dans quelque chose qui durera trop longtemps non plus. Et il me semble que la thérapie par l'hypnose, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève.
Ouais.
Voilà. Du coup, j'imagine que peut-être avec eux, tu définis un peu combien de temps tu penses que ça va prendre après la première séance. Est-ce que tu attends plus? Est-ce que tu peux nous dire un peu le rapport au temps qu'on a?
Alors, l'hypnose est une thérapie brève et brève ne veut pas dire éclair, ne veut pas dire magique.
Ah, c'est important de préciser.
Hyper rapide. Régler un problème que j'ai peut-être depuis plusieurs années et qui me pèse en une heure de séance me paraît être un peu un leurre. On a un peu l'image comme ça des fois de l'hypnose comme ça où j'arrive dans le cabinet et puis le thérapeute, l'hypnotiseur va me mettre en hypnose, puis je vais pas comprendre ce qui se passe et puis il va ouvrir mon cerveau, il va dire inconscient es-tu là et à partir de maintenant... un tel n'aura plus jamais peur. Ça marche pas tout à fait comme ça quand même. C'est non, rapide.
Il faut le dire parce que c'est un petit peu ce qu'on nous raconte autour de nous.
Mais ça marche pas tout à fait comme ça. Alors, on peut avoir des résultats très très importants déjà en une séance. Je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir consolider ça sur plusieurs séances. Moi, les personnes, quand elles me demandent combien de temps ça prend, alors ma réponse, que je vais redire ici, c'est que c'est quand même très 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 difficile de dire combien de temps ça va prendre. En fonction du parcours de vie de la personne, de là où elle en est, de qu'est-ce qu'il y a derrière la problématique avec elle vient, avec laquelle elle vient. Ça peut prendre peut-être juste 2 séances, mais peut-être que ça peut en nécessiter d'aller jusqu'à 10, voire 15. C'est vraiment en fonction de là où la personne elle en est. Par contre, ce qui me paraît vraiment important, c'est je vais aller rencontrer un thérapeute. Il faut quelque chose qui me parle dès le premier rendez-vous.
Oui, il faut l'accrocher, et puis surtout l'ado, en l'occurrence.
Faut qu'il y ait une accroche, faut vraiment que je me dise, ben tiens, là je suis écouté, là je suis entendu, là on tient compte de ce que je veux. Et presque, je pense qu'à la première séance, il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui se passe. Le travail thérapeutique, il commence dès la première séance. En tout cas, pour moi, c'est très clair, et je le dis vraiment comme ça, c'est si en 3 séances, il n'y a pas déjà quelque chose vraiment d'important qui s'est passé, je pense que ça ne vaut pas le coup de continuer, quoi. D'accord. Voilà. Mais même, j'aurais tendance à dire à la fin de la première séance, de toute façon, moi, quand je reçois des ados, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'ado qui va dire je souhaite revenir ou je ne souhaite pas revenir. Et ça se fait dès la fin de la première séance.
Et on te voit tous les combien de temps ?
Alors, on me voit entre un délai de toutes les semaines ou une fois par mois. Je pense qu'au-delà d'une fois par mois, c'est un peu comme si je veux faire du sport, quoi. Si je vais faire du sport une fois tous les 6 mois, il y a peu de chances que... Il y a peu de chances, je ne sais pas si tu vas faire du sport une fois tous les 6 mois, mais en tout cas, si je veux faire du sport et que j'y vais une fois tous les 6 mois, il y a peu de chances que j'envoie les résultats.
C'est quand on commence à travailler sur l'inconscient, des problématiques.
Sur une démarche thérapeutique, c'est bien vraiment d'y aller, quoi. Donc, ça peut être toutes les semaines, s'il y a aussi peut-être... des fois, en début de parcours thérapeutique, un peu une urgence comme ça. Je me sens particulièrement mal, donc j'ai besoin d'un soutien assez rapproché. Et puis, ça va aller jusqu'à une fois tous les mois. Et puis, il y a des personnes avec que moi j'ai suivies. Et on a fait un boulot thérapeutique. Et puis, qui après, de temps en temps...
petite piqûre de rappel.
Ont besoin d'une petite piqûre de rappel et qui vont revenir, je ne sais pas, moi, une fois tous les 3, 4, 5, 6 mois.
Voilà. D'accord, j'ai bien compris. Par contre, du coup, ce qu'il faut le dire aussi à nos ados, donc tu nous as dit que tu laisses la place à l'ado, l'ado est seul avec toi, ça c'est très important, je pense, pour eux. Mais du coup, dans quelle mesure, toi, tu gardes 100% des infos qui vont être transmises par l'ado ? À quel moment tu te dis, ah tiens, oups, là, il faudrait peut-être que j'en informe les parents parce que, je sais pas, moi, peut-être, état suicidaire, j'en sais rien, enfin, un truc, ou à un autre moment encore ? Question gigogne, tu te dis, tiens, là, il faudrait que je dise à l'ado, ah bah ça serait peut-être chouette que tu envisages de voir un psychiatre en plus, ou un psychologue en plus, ou un ou une, évidemment, toujours. Comment tu sais, toi, j'imagine qu'il y a une forme de secret, de type un peu secret médical, secret de l'entretien, mais pour le reste ?
Alors, il y a une confidentialité qui est très importante dans le cadre du rendez-vous. Ça, c'est un cadre qui, pour moi, est posé avant le rendez-vous, donc... tout le temps, en fait. C'est les parents, moi, qui m'appellent pour un rendez-vous pour leurs ados. C'est très rare qu'un ado m'appelle par lui-même. D'ailleurs, je pense que si un ado m'appellerait par lui-même, j'aurais besoin de l'accord des parents. C'est les parents qui sont les détenteurs de l'autorité parentale. Donc
et qui payent.
Les parents et
accessoirement. Bon,
peut-être qu'il y a des ados très riches.
Ça doit exister,
ouais. Ça doit exister. Mais en tout cas, oui, en général, c'est les parents qui appellent et c'est les parents qui payent. Donc, le cadre qui est posé à ce moment-là, c'est l'entretien, il est confidentiel. C'est-à-dire que ce qui se dit dans le cadre de l'entretien quand moi je suis seul avec l'ado, reste dans le cadre de l'entretien. Pour donner un exemple, un jeune, c'est des exemples vécus, qui me dit « Ouais, ma mère, elle veut pas que j'ai un compte Snapchat, mais je l'ai quand même ouvert. Je veux pas le répéter à la mère. J'ai commencé à fumer, mon père, il est pas OK avec ça. Ça va pas être répété aux parents. » C'est-à-dire que ça, c'est un cadre que je pose dès le début.
D'accord, mais si la jeune fille...
reste complètement confidentiel. Ah. Par contre...
Si la jeune fille ou le jeune homme te dit « Tiens, j'ai des relations tarifées par webcam », on fait comment ?
Donc, par contre, effectivement, et ça, c'est aussi précisé, et c'est rappelé aussi au début du premier rendez-vous, s'il y a des choses qui... laisse entendre que le jeune se mette en danger et des comportements qui soient dangereux. Alors, par exemple, l'exemple que tu viens de citer, mais ça peut être aussi simplement En fait, je te le dis à toi, Vincent, mais ce que j'ai prévu, là, c'est... j'ai mon petit baluchon, et puis tout à l'heure, je prends le train, et puis je vais fuguer, et mes parents ne me reverront plus jamais de toute ma vie. Ou j'ai décidé ce soir de faire une énorme connerie. Ça, c'est des choses qui relèvent de la sécurité. Et alors là, il y a un cadre qui est très clair, qui est le cadre légal, qui fait que si moi, je suis... si j'ai connaissance d'éléments qui remettent en question la sécurité d'un jeune, je suis dans l'obligation de le dire aux parents. Et ça, c'est dit aussi dès le début. C'est-à-dire que le jeune, il est au courant que si à un moment, il me dit des choses qui sont de l'ordre de sa sécurité, je ne vais pas lui demander son avis. Il va être informé, il va être là quand je vais le répéter. Mais c'est des choses que je vais transmettre aux parents, puisque c'est les parents qui sont détenteurs de l'autorité parentale.
Donc, il peut potentiellement passer des messages même, j'imagine.
Et c'est là aussi où ça me paraît extrêmement important, c'est qu'on parle souvent de la confidentialité de l'entretien, et c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement important. Mais ce qu'on oublie, c'est que, et c'est presque quelque chose que je vois plus souvent,
c'est, ça ne me surprend pas.
Dans le cadre de l'entretien, à la fin, en général, quand je vois l'ado, je lui dis « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça avec ton père ou ta mère qui est là quoi ?» Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit pas? Qu'est-ce que toi, tu vas leur répéter? Qu'est-ce que tu souhaites que moi, je leur dise? Et très souvent, plutôt ce qui se passe, c'est que l'adolescent va utiliser ma présence, va m'utiliser en tant que tiers pour pouvoir peut-être poser des questions qu'il n'a pas osé lui-même poser à ses parents. Il n'y a pas très longtemps, il y a une maman à qui j'ai demandé « Mais est-ce que votre fille, vous l'avez vraiment désirée ?» Et c'est une question qu'elle n'osait pas poser à sa maman. Et
donc en présence de l'ado, tu as posé cette question à la maman.
En présence de l'ado, d'accord. C'était complètement convenu avec l'ado dans
c'est
le cadre de l'entretien.
Ouais,
c'est très très fort. Ouais. Dans le cadre de l'entretien, on en est venu là-dessus, quoi. Mais est-ce que toi, tu penses que tu as vraiment été désiré, quoi? Et est-ce que tu es le fruit de l'amour? Et c'est important de savoir qu'on est le fruit de l'amour, ou peut-être si on ne l'est pas, de savoir qu'on ne l'est pas pour pouvoir travailler là-dessus.
Bien sûr.
Et c'est une question que se posait cette adolescente et qu'elle n'avait jamais osé poser à sa mère. Et alors qu'ils ont une belle relation. Et donc du coup, la fin de l'entretien a été l'occasion de venir poser ça et peut-être d'ouvrir sur quelque chose de différent pour la suite.
Voilà. Super, merci. Je vais regarder. Oui, bah écoute, malheureusement, on arrive au terme de cette première émission parce que la grande nouvelle exclusive, c'est que tu seras avec nous pour une prochaine émission parce qu'on a reçu des questions d'ados et de parents. Et que du coup, tu vas nous y répondre. Enfin, non, tu vas y répondre, pardon. pour ce qui est de te joindre, on va mettre le lien vers ton site internet,
hein,
qui est super bien fait. D'ailleurs, je vous le conseille vraiment. Et merci encore, Vincent Schuller, donc, d'être venu nous voir aujourd'hui. Et puis, à tout bientôt dans Nos Adorés.
C'est moi qui te remercie.
Au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,